Coucou.
Moi, c'est Marion.
Et moi, c'est Louise.
Bienvenue dans C'est pas sorcière,
le podcast qui explore l'histoire de la sorcellerie
et les pratiques ésotériques. Je ne sais jamais s'il faut du coup accorder pratiques ésotériques ou pas. Du coup, je le fais une fois sur deux. Ça doit être très perturbant. Pardon.
Ouais. Et je pense qu'une fois sur deux, il y a des gens qui hurlent et qui
doivent cringer
sur la... l'autre fois
en
sur
deux. En faisant leur vaisselle. C'est pas possible!
En même temps, déjà, quand je fais le montage des épisodes, je cringe sur ma façon de parler et toutes les fautes de français que je fais.
Moi aussi.
Heureusement qu'on n'a pas énormément d'exigences, hein, sinon il resterait plus que 2 minutes d'épisode.
Je me donne déjà mal à la tête.
Bien, rentrons dans le vif du sujet. Eh bien, moi, je vais te parler de Hécate.
Ah, cool!
Tu connais déjà plein de trucs sur Hécate?
Plein de trucs, je dirais pas, mais je connais des trucs.
Tu veux pouvoir vérifier si je dis pas de bêtises.
Je pense que je connais une partie très émergée de l'iceberg.
Et toi, tu vas parler de quoi?
Je vais parler des familiers.
Ah, oh bah ça va bien avec Hécate.
Ouais, c'est pas mal, hein. C'est même pas synchro. Mm.
D'ailleurs, il y a une petite partie où j'ai dit, genre dans la préparation que j'ai écrite, où j'ai écrit que ça t'en reparlera sûrement le jour où tu feras un truc sur les familiers. Donc j'espère que tu vas en parler, parce que sinon...
Du coup, je suis en train de faire le lien entre Hécate et les familiers dans mon cerveau. Et je suis en train de me dire, probablement pas.
Tu verras. Je te spoil
pas. Ne me spoil pas. Et vas-y.
Et ben, j'y vais. Parlons de Hécate. Alors déjà, avant de parler de Hécate en elle-même, j'aimerais expliquer en 2 points pourquoi j'ai décidé de parler de Hécate.
J'adore quand t'as des points.
Alors, en 1... Parler de sorcière pour un personnage issu de la mythologie de l'Antiquité, c'est un peu un anachronisme, parce que, comme vous le savez sûrement, le terme de sorcière, il est apparu au Moyen-Âge. Et les chasses aux sorcières, c'était à la Renaissance. Petite pointe de rappel.
C'est important.
Et donc, du coup, on ne peut pas vraiment parler de sorcière avant d'avoir même le terme ou le concept de sorcière. Cependant...
On peut parler de magie.
On peut parler de magie, et surtout que les figures de magiciennes de l'Antiquité, elles ont contribué à forger les figures de sorcières telles qu'on les connaît aujourd'hui. Donc du coup, la sorcière d'aujourd'hui, elle découle de la magicienne de l'Antiquité, donc on peut tricher et parler de sorcière pour parler de magicienne de l'Antiquité.
Mais d'ailleurs, il faudrait un jour qu'on fasse un épisode spécial vocabulaire, parce que j'étais en train de me dire, mais en fait... Sorcière, c'est juste le mot péjoratif pour dire magicienne.
Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que dans la fiction, on voit souvent des sorcières qui invoquent Hécate dans leur formule magique. Et du coup, j'avais envie d'en savoir un peu plus sur cette Hécate dont toutes les sorcières parlent.
Vous, tu pensais à Willow dans Buffy.
Tout à fait. Je l'ai aussi écrit dans ma chronique. Tu spoiles tous mes trucs.
Sorry.
Bon, Hécate, elle est connue aujourd'hui pour être une déesse de la lune. Donc déjà, ça aide à comprendre pourquoi elle est si liée aux figures de sorcières qui sont souvent en lien avec la lune. Et je dis une déesse de la lune parce que dans la mythologie, il y a 3 déesses de la lune. Est-ce que tu connais les 3 déesses de la lune?
Oui.
Vas-y.
Il y a Sélène.
Ouais.
Qui est associée à côté. Je crois que c'est la lune, le croissant de lune avec les moissons et tout.
Non.
Il y a. Non, c'est pas celle-là. C'est pas la pleine lune alors.
C'est la pleine lune, ouais.
Eh, Artémis, du coup, c'est le croissant. C'est la déesse de la lune chasseresse et qui s'occupe des animaux et tout. Et Hécate, elle s'occupe Parce que plus genre de tout ce qui a rapport avec la nuit, et du coup la nouvelle lune quand quand on la voit pas, la lune.
Très 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 bien, 20 sur 20.
Merci.
Donc du coup, je rappelle pour le reste de la classe, Sélène associée à la pleine lune, ce qui symbolise la maturité, Artémis qui est associée au croissant de lune, qui symbolise la naissance, et Hécate, celle dont on s'intéresse aujourd'hui, qui est associée à la nouvelle lune et qui symbolise la mort ou la renaissance.
Et du coup, la Renaissance.
Voilà, c'est en fonction de si tu vois le verre à moitié plein ou à
D'accord.
moitié vide.
Mais dans tous les cas, il n'y a pas de mort sans la vie. Il n'y a pas de vie sans la mort.
Une fois que tu es morte, tu
Voilà.
revis. Enfin, ça dépend de ta religion, mais tu revis plus.
Non, mais après, tu deviens plein de petites bébêtes et bon, quelque part, tu revis à travers. Le mucus et les champignons qui sortent de ton corps, et c'est un peu joli quand même
Voilà,
quand on y pense.
faites-vous enterrer.
Enfin, ça c'est si on est enterré dans la terre. Et pas dans du formol. Et dans des trucs nuls.
Enterré dans du formol.
Non mais t'as du formol dans toi et du coup tu peux pas te décomposer correctement. Et en plus t'es dans des espèces de faux satin dans une boîte qui est encore dans un trou. Où autour il y a encore du béton. C'est nul.
C'est
C'était pas le sujet.
nul. Mais ça te tient à cœur, donc il fallait que ça sorte.
Désolée à la Louise du montage.
C'est pas grave, je le laisserai. Revenons sur Hécate. Hécate, donc dans la mythologie, elle est descendante des titans. Les titans, c'était en gros les géants qui étaient les premières divinités dans la mythologie. C'est vraiment vulgarisé très grossièrement. Mais c'est pour dire elle descend de gens importants, quoi. C'est pas n'importe qui.
Même parmi les dieux.
Ouais.
Pas n'importe qui.
Il n'y a pas énormément d'histoires rocambolesques dans la vie d'Hécate, et j'avoue que j'étais un peu déçue parce que la mythologie m'a habituée à des histoires absolument improbables, de gens qui se changent en animaux, qui ont des enfants avec n'importe qui, et puis ça fait des trucs bizarres, et puis ils voyagent la moitié de la Terre, et puis. Là,
L'arbre généalogique n'est pas possible à faire.
Voilà. Et là, je suis un peu déçue, il n'y a pas de trucs extraordinaires. Et.
Est-ce que ce serait pas un peu une femme de l'ombre, du coup,
Vous
par rapport à la nouvelle lune?
avez compris.
Vous l'avez?
En tout cas, ce qu'on sait d'elle, c'est surtout grâce à l'œuvre du poète grec Hésiode. Et donc, dans son œuvre, il dit que Zeus était très attaché à Hécate, et du coup, il lui a donné plein de pouvoirs, dont un pouvoir de protection sur la terre, la mer et le ciel. Donc en gros un peu sur tout. Et du coup elle va devenir un peu la déesse de tout. Et c'est un truc qui est assez rare dans la mythologie parce que d'habitude les dieux ils ont souvent une fonction très précise, genre je suis la déesse de la chasse et que la chasse. Elle, c'est la déesse des chasseurs, des orateurs, de la naissance, la mort, enfin un peu tout ce que tu veux. J'ai pas fait de liste de tout ce que j'ai vu passer parce que j'ai vraiment tout vu passer et je me suis dit que ça n'avait aucun intérêt de lister à peu près tous les métiers qui existaient à l'époque.
Elle cumule les mandats.
Exactement. Vas-y, je l'aime plus. Rends l'argent, Hécate. Et donc si au début de l'histoire de la mythologie, avec le temps, elle va quand même évoluer au niveau de sa représentation, parce que elle va rester déesse de à peu près tout, mais on va vite lui donner une spécialité dans les carrefours. Et du coup,
Ah.
pas les supermarchés, les endroits où la route se divise en plusieurs passages. Il n'y en avait pas à l'époque.
Pourquoi ça me fait autant rire?
Parce qu'on enregistre le soir, après le travail.
Oui, déjà. Mais surtout, j'imagine Hécate, tu vois une meuf un peu stylée avec une toge et tout, avec une espèce de couronne, avec une lune et tout, et genre elle est devant les caddies.
Il y a des promos dans l'allée 3. Donc, DSD Carrefour, on va la représenter avec trois visages. Donc, souvent, si vous voyez des sculptures antiques avec une femme qui a trois visages. Ça peut... Il y a différentes variations. C'est soit trois femmes autour d'un bateau, soit une femme avec trois visages, soit une femme avec trois corps. Il faut un peu de tout.
Ouais,
en gros, il y a figure
les...
féminine et le chiffre 3.
Ouais, voilà. Et puis, tu... des fois aussi, j'essayais de chercher l'autre fois une gravure où tu voyais les trois déesses de la Lune. Et soit tu as les trois déesses de la Lune, soit tu as Hécate avec,
avec les trois visages.
Les trois têtes. Et sur chacune du coup, des visages, tu as des attributs en fait, de chaque déesse. Ah. Du coup, tu ne sais pas si elles sont une ou si elles sont trois, ou si elles sont un peu genre trois personnalités dans une même personne.
Et en tout cas, si on lui fait trois visages pour Hécate, c'est parce que du coup, comme c'est les carrefours, c'est les trois directions où tu peux aller quand tu arrives sur un carrefour. Voilà. Et donc du coup, il faisait souvent des statues des trois visages qu'il mettait au carrefour, dans les villes, à l'époque.
Stylé. Nous, on a des ronds-points.
Au 5e siècle, sa figure, elle va encore un peu évoluer, puisqu'elle va être cette fois liée aux enfers, en étant liée à l'histoire de Perséphone, qui est la déesse du printemps, qui va être enlevée par le roi des enfers, qui est Hadès, et Déméter, la maman de Perséphone, apprécie pas trop que sa fille soit enlevée et condamnée à vivre aux enfers. Du coup, elle va aller la chercher aux enfers. Et Hécate, en meuf plutôt sympa, elle va aider Déméter à s'orienter dans les enfers. Et c'est là qu'on va avoir du coup la figure de déesse des magiciens, de déesse de l'obscur, de la nécromancie, qui va apparaître. C'est par le fait qu'elle a guidé Déméter aux enfers pour aller chercher Perséphone. Et du coup, on la considère parfois même comme déesse des enfers.
Ah ouais.
Et va aussi garder le lien avec la déesse des carrefours, parce que du coup, cette fois, ça va être le carrefour entre les enfers, le ciel et la terre.
C'est large.
Et du coup, une fois de plus, si vous voyez certaines représentations de Hécate, vous pouvez parfois la voir avec deux torches, une dans chaque main, oui. Parce que du coup, elle est en train de guider dans les enfers.
Ah, c'est pour ça la torche. Okay, je croyais que ça avait un rapport avec le fait que la nouvelle lune, bah, du coup, dehors, tu vois rien. De manière très pragmatique.
Bah, au carrefour, il y a besoin d'un lampadaire, du coup.
On voit rien, c'est l'Antiquité.
Et aussi, du coup, dans la mythologie, on va beaucoup la lier avec Perséphone, parce que du coup, elle va devenir, entre guillemets, sa servante pour l'aider à chaque fois que Perséphone retournera aux enfers. Parce qu'après, il y a eu, pour faire vite sur l'histoire de Perséphone, qui est une histoire géniale en elle-même, mais qui n'est pas celle que je dois raconter ce soir, elle fait un pacte avec Hadès, où en fait, elle passe soit un tiers, soit la moitié de l'année, non, soit deux tiers, soit la moitié de l'année, aux enfers avec lui. Et c'est pour ça que c'est l'hiver sur Terre, parce que la déesse du printemps n'est plus là. Et ensuite, elle revient sur Terre.
Elle est occupée.
Voilà, c'est comme ça que ça marche les saisons. Et donc, ça, c'est encore une évolution de sa représentation. Et la dernière évolution, c'est que maintenant qu'elle est devenue cette figure très liée à la magie, à la magie, il va y avoir d'autres figures mythologiques qui vont naître de cette figure de magicienne. Et ça va être les figures de Médée et de Circé. Je ferai très probablement des chroniques sur ces deux figures, parce qu'elles sont aussi hyper importantes dans la représentation de la sorcière d'aujourd'hui.
C'était sa dernière évolution en tant que Pokémon, là ?
Ouais,
pardon,
c'est la dernière. C'est le level...
Le dernier stade.
J'y connais rien en Pokémon et je pense que ça s'entend.
Voilà. J'ai voulu faire ma petite blagoune, mais voilà. On va se faire tracher par les gens fans de Pokémon.
Désolée.
Sorry. Désolée à mon pote Kevin. J'ai rien écouté quand tu me parlais des Pokémon.
En tout cas, au niveau de la religion, et c'est là que je me raccroche peut-être attaque chronique, c'est que pour honorer la figure des cats, les personnes sacrifiaient des animaux noirs qu'on déposait en offrande au carrefour.
Ah.
Et du coup,
très bien.
Il y a déjà un lien entre les figures de sorcières, de magiciennes liées avec l'enfer et les animaux noirs.
Ça, c'est amusant. Pour le coup. En plus, dans plein de cultures, enfin, il y a des animaux qui sont sacrifiés pour être mis à des carrefours parce que ça conjurerait un peu le mauvais œil, puisque le carrefour, c'est un endroit qui est souvent un peu représenté comme qui fait peur, tu vois.
Ouais.
Qui est hanté.
Mais du coup, je comprends pas trop parce que les animaux noirs, souvent, c'était genre mauvais augure. Et du coup, on les tuait, on les sacrifiait. Mais on lui sacrifiait aussi beaucoup des chiens qui étaient un de ses emblèmes. Mais pour le coup, je comprends pas trop parce que du coup, si c'est son emblème, c'est plutôt un honneur, le chien. Donc pourquoi il y
Mais
en a, c'est
j'ai jamais
négatif, et
trop
il y en a,
compris le
c'est
concept du
positif.
sacrifice finalement. Bah, peut-être que
Ils ont juste
quand
envie de
tu fais
tuer
un
des animaux,
sacrifice,
quoi.
t'as le sacrifice de. Non, mais je pense que peut-être que tes sacrifices, ils n'ont pas la même utilité. Il y a peut-être un sacrifice où je sacrifie quelque chose pour toi et pour moi, genre pour l'enlever, et je sacrifie quelque chose pour te le donner. Enfin, à mon avis, ça doit dépendre des cérémonies.
Peut-être, ouais.
Il va y avoir une explication, Louise.
Ouais, faudra qu'on enquête.
Certainement pas une bonne
J'ai pas envie
explication, mais
d'enquêter
elle est
là-dessus,
bonne.
c'est triste.
Moi non plus, mais en même temps, maintenant, j'ai envie de savoir. Donc voilà,
Suis mitigée.
j'explorerai, et c'est tout.
En tout cas, comme je viens de dire, son emblème, c'était le chien. Et pourquoi le chien? Parce qu'à l'époque, on croyait que les chiens étaient capables de voir les morts. Et donc, un chien aboyait la nuit, c'est qu'il était en train de voir des gens morts. Et donc, du coup, on représente aussi souvent Hekate avec un chien. Donc, si vous voyez une meuf avec trois
Et du coup, ça
visages,
fait
deux
écho aux
torches et un
enfers.
chien, c'est Hekate.
Et alors,
Là, il n'y a pas de
tous les coups.
doute.
Du coup, ça fait écho aux enfers où il y a le chien à trois têtes d'Hadès. Je
Ah, ouais, c'est
sais
vrai.
plus comment il s'appelle.
Touffu.
Peut-être que le chien, c'est un peu un animal. Bah, tu sais, comment il s'appelle? En anglais, je sais qu'on dit les Hellhounds.
Bah, les chiens de l'enfer.
Les chiens de l'enfer. J'adore. Hellhound, ça devrait être mon nom de rock si je faisais du rock. Voilà. On aurait des colliers de chiens, ce serait cool.
Je t'imagine pas du tout avec un collier de chien.
Moi non plus.
En tout cas, je te disais, on en parlait au début, Hekate est très présente dans la fiction en lien avec les sorcières. On peut la retrouver par exemple dans Macbeth de Shakespeare. C'est un personnage qui est dans la pièce, que j'ai lu il n'y a pas longtemps d'ailleurs, enfin. Elle est invoquée dans la série Charmed. Tu l'as spoilé au début, elle est invoquée à plusieurs reprises par Willow dans Buffy. Et actuellement, c'est aussi une déesse qui est toujours vénérée par les personnes qui pratiquent le wiccanisme, dont tu feras peut-être un jour aussi une chronique sur le mouvement Wicca. En tout cas, Hekate est très populaire. Quand je faisais mes recherches, j'ai regardé deux, trois vidéos de gens qui parlaient de Hekate et il y avait plein de
Énormément
gens
de
dans les
sujets sur
commentaires qui
Hécate.
disaient « J'ai dédié ma vie à Hekate !»
Parmi les gens qui font pas forcément de la Wicca mais du néopaganisme, t'as des dieux quand même qui semblent avoir quand même plus la cote que d'autres, et Hécate, elle aggrave la cote.
Ouais. Je pense que c'est aussi parce que le fait qu'elle est un peu. Elle a plein d'aspects, elle est un peu déesse de tout, tu
Ouais.
peux un peu mettre ce que tu veux dedans, quoi.
Exactement. Tu projettes un peu ce que toi tu veux sur elle.
Et tu prends les
Parce que
éléments
bon, des dieux qui sont
qui te
très très
plaisent.
spécifiques, tu vois, il faut vraiment que.
Ouais.
Je sais pas, genre Apollon, le soleil et la musique. Bon, faut aimer le soleil et la musique. Faut être un surfeur. Australien.
Important.
Important.
Donc Hekate, c'était hyper intéressant parce que moi je connaissais pas grand-chose sur elle, de voir plein d'aspects au fur et à mesure de son évolution entre guillemets,
Ouais, et puis en
et de
plus.
dire ah ça ils ont repris de ça de là, elle vient de là le
Mais
truc.
oui,
Et ce que
c'est
j'aime
des petits
bien,
morceaux des quatre qui se promènent un peu partout en fait.
exactement, et c'est quelque chose que j'aime bien quand je fais quand je fais ces chroniques sur les figures de sorcières, en particulier sur les figures historiques ou dans ce cas mythologiques, c'est de voir comment la figure de sorcière telle qu'on la connaît aujourd'hui a pioché des trucs un peu partout et parfois beaucoup dans certaines sources. Et c'est pour ça que...
Et du coup, c'est associé à un peu... Un peu gothique aussi, de la sorcière qui aime la lune, la nuit, les choses sombres.
Ouais, exactement. Et c'est pour ça aussi que même si on peut pas dire que Hécate c'était une sorcière parce que c'est un gros anachronisme, c'est hyper intéressant de parler de Hécate quand on parle de la figure de la sorcière parce que bah c'est l'origine.
Grosse inspiration. À l'origine de la sorcière.
Voilà. Et donc pour terminer, je dirais que j'espère que pour vous, écouter cette chronique sur Hécate, c'était l'éclate.
Ah, ah. Franchement,
tu
l'aurais pas faite, que j'aurais eu le seum.
Écoute, non, j'ai passé, je te jure, bien 10 minutes à trouver une manière comment terminer le truc et pas laisser en plan. Et à la fin, je me suis dit, on va faire un jeu de mots parce que... Hein,
franchement...
Au point où on en est.
Trouvez-vous des amis qui ne vous déçoivent jamais comme ça.
Ah, l'humour.
C'est pas si facile à trouver. L'humour. Et bah du coup, je vais aussi parler d'animaux.
Ouais.
Puisque si vous saviez pas, les familiers en sorcellerie, c'est des animaux. Bon, je vais expliquer parce que moi aussi, j'ai fait une petite introduction.
Ah, c'est bien.
Mon introduction s'appelle « Les animaux dans la sorcellerie ».
Ouais, t'as même mis des titres.
Bien sûr, j'ai mis des titres à tout.
Respect.
Bon, ça va pas être marrant parce que magie ou pas magie, les animaux, on les a quand même toujours plus ou moins utilisés comme des objets. Donc, pas ouf. Mm. Et je ne pensais pas dire ça un jour, mais je vais citer la Bible. Il faut, je cite, « tenir dans la soumission les poissons de la mer, les créatures volantes des cieux et toute créature vivante qui se meut sur la terre. » Fin de citation.
Je vais quand tu je cites, tu fais tous les « e ».
Mal réussi. Oui, j'ai envie que c'est un petit côté Google Traduction, tu vois, qu'on comprenne que ça vient pas de moi. Du coup, j'ai l'impression que dans les pratiques de magie, t'as deux types d'animaux qui vont plus ou moins être utilisés, comme on utiliserait un objet. Le premier type d'animaux, ça va être les animaux morts, que tu utilises dans des rituels ou autres, ou dont tu vas te servir, c'est pour faire des objets. Je sais pas, c'est la bave de crapaud, la poudre de corne de rhinocéros, la patte de lapin, tout ça. Et le deuxième type d'animaux que tu vas voir, c'est l'animal vivant, et qui lui va être accusé soit d'être au service du sorcier, d'être un familier, j'expliquerai après, soit d'être lui-même un sorcier, parce que oui, il y a eu des procès et des exécutions d'animaux accusés de sorcellerie. Tout est possible dans l'histoire, c'est formidable. Et du coup, dans cette deuxième équipe, on va avoir principalement un certain type d'animal. Bon. Ceux dont on dit qu'ils sont nuisibles, comme les insectes rampants, les arachnides, les rongeurs. Les lapins, d'ailleurs, compris dans les rongeurs, parce qu'ils se reproduisent très vite et que du coup, l'Église ne voyait pas ça d'un très bon œil. Animal concupiscent. Et du coup, tu l'as dit, les animaux de couleur sombre, donc voilà, tout ce qui est corbeau, corneille, chat noir, souris noire, voilà. Du coup, les animaux nocturnes, parce que bah, la nuit, le sombre, ça tend. Chauve-souris, chouette, hibou, etc. Ensuite, tu vas avoir les animaux qui n'ont pas de chance parce qu'ils sont juste un peu moches, genre les crapauds. Voilà. Moi, je les trouve pas particulièrement moches, mais bon... et puis voilà, t'as ceux qui échappent un peu à tout contrôle, comme les chats. Enfin, moi, ma théorie du revirement de la réputation des chats, qui ont quand même été utilisés à la base pour éviter que les rongeurs nous bouffent les grains dans l'agriculture, donc pas mal, chat.
Bonus, utile.
Et ensuite, on s'est mis à le cramer. Ben oui. Donc, je pense que c'est parce que, tu sais, le chien, on l'a vraiment domestiqué, alors que le chat, il reste quand même un peu maître de lui-même. Donc, je sais pas si c'était très, très bien vu non plus. Bon, je sais pas, j'essaie de trouver des raisons, mais je comprends pas pourquoi on a autant fait chier les chats.
Bah, c'est parce que c'est des petits cons, les chats, sauf que maintenant, on les aime bien.
Non, coup de patate à Louise, c'était pas un petit con, Boris.
C'est qui m'a envoyé des photos de Boris qui avait détruit des trucs
Je lui ai encore dit ce soir. t'as aussi du coup tous les animaux qui paraissent un peu indomptables ou dangereux. Donc par exemple un cheval pas obéissant qui rue, etc. Et enfin, dernière catégorie, toutes les chèvres. Parce que je vous le donne en mille, le diable dans la Bible, c'est un homme mi-homme, mi-chèvre. Donc voilà. Ce qui, bizarrement, ne nous empêche pas de les élever, de les manger, de manger leur lait. On n'est pas à une contradiction près.
On prend que les avantages.
Et du coup, voilà. Tout ça pour dire qu'actuellement, ce qui reste du familier dans les pratiques de magie, c'est un mélange de choses un peu païennes, mais aussi de finalement tous les préjugés de l'Église sur ces animaux. C'est amusant de voir comment ça s'est mélangé pour donner ce que les gens aujourd'hui aiment comme familier ou même que tu vois dans les fictions. Donc, expliquons un petit peu en détail ce que c'est. Un familier, c'est un compagnon de sorcellerie qui peut être, selon les croyances et les pratiques, soit un animal, soit un truc non matérialisé, genre esprit, fantôme, démon. Et là, on va parler que des animaux parce que sinon, c'est chiant. Non, ça va être trop long.
Ouais.
Familier. C'est déjà long.
Mais non.
Donc du coup, familier, ça veut dire littéralement qui est regardé comme étant de la famille ou qui vit habituellement avec quelqu'un. Donc ça peut pas être n'importe quel animal non plus. Il faut que le truc, je le connaisse et pas que physiquement. Il faut pas genre que ce soit juste l'animal qui vit dans le pré d'à côté. Il faut le connaître bien.
Ok. T'as un lien.
D'ailleurs, on considérait pendant les chasses aux sorcières que les sorciers et les sorcières nourrissaient leurs familiers avec leur lait.
You.
Voilà, j'attendais la réaction. L'idée, c'était que les sorciers et les sorcières avaient un téton maudit qui leur poussait dans un endroit un peu caché. Non, mais c'est pas fini. Et que tu allaitais ton familier par là. Et si vous avez vu la série Salem, qui n'est pas une très bonne série, mais qui a le mérite de montrer ça, on voit des sorcières dedans qui ont, par exemple, un crapaud, une souris, allaitées par une espèce de téton caché dans leur cuisse, leur animal, pour qu'ils continuent à leur rendre des services magiques. Voilà,
C'est
et du coup, ça
dégueulasse.
faisait partie des. C'est dégueulasse. Et ça faisait partie des marques que cherchaient les persécuteurs sur les corps des personnes accusées de sorcellerie. Ce qui est complètement
Le
stupide, puisqu'avoir un
troisième
troisième téton,
téton.
c'est quand même très répandu.
Ouais,
Et en plus,
comme
c'est complètement
Chandler de
débile parce que le
Friends.
truc ne peut pas faire du lait. Oui! Enfin, je connais plein de gens qui ont un troisième téton. Mon frère a un troisième téton. Voilà. Du coup, big up à toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont un troisième téton et qui ne s'en servent pas pour des fins sataniques. Ou qui s'en servent à des fins sataniques, faites ce que vous voulez dans le respect de
Ouais, mais ne
tout le
nourrissez
monde.
pas vos animaux avec, c'est dégoûtant.
Mais vous pouvez pas en plus un troisième téton, il y a pas le, enfin, c'est pas situé à l'endroit où il y a du lait, enfin, généralement. Enfin, je crois pas. Bon, le familier en magie, ça sert à quoi? Dans les pratiques de sorcellerie néo-païenne, entendez tout ce qui tourne autour de la Wicca, on estime que le lien avec un animal qui est considéré comme un familier, c'est bénéfique en fait dans la pratique de la magie. Et du coup, tu vas pouvoir apprendre à travailler la magie avec tel ou tel animal, de la même manière qu'une sorcière verte, elle apprendrait à travailler avec du basilic ou de l'épeautre ou de l'avoine ou je ne sais pas quoi. Et il y a des courants qui considère aussi que l'animal en lui-même pourrait avoir des pouvoirs. Donc tout à l'heure, tu disais que le chien, il avait la réputation de pouvoir voir les esprits. Apparemment, les chats aussi. Mais on dit ça beaucoup des animaux, parce que comme on ne sait pas, je pense, ce qui se passe dans leur tête quand ils regardent les murs pendant longtemps.
Ouais.
On se fait un peu des films, je pense. Et à Askip, les crapauds seraient doués en divination. Ils auraient le troisième œil. Sachez-le. Si vous croisez un crapaud, il sait ce que vous avez fait hier soir. Il sait ce que vous avez fait l'été dernier.
Et c'est ce que vous ferez demain.
Et plus largement, dans les dictionnaires de symboles, tu trouves plein de symboliques associées aux animaux. Donc je pense que ça doit certainement aussi aider aux personnes qui veulent un familier à peut-être trouver un familier. J'en ai réuni quelques-unes. Alors c'est des symboliques de dictionnaire des symboles occidentaux. La chouette, ça symboliserait la patience et la sagesse. Le chien, ce serait plutôt la dévotion, la protection. Donc, c'est plutôt en raccord avec l'usage qu'en font les humains.
L'usage.
Le lapin, bah, enfin, c'est ça, hein, on les utilise. Je dis pas que c'est bien, mais je dis qu'on les utilise, ce qui est un fait. Les lapins, ils symbolisent le courage. J'ai pas trop compris pourquoi, mais ça doit pas être facile d'être un lapin. Pourquoi pas? Et la chance, rapport, je pense, aux petites pattes de lapin.
Ouais.
Le rat, ça symbolise l'adaptabilité et la perspicacité, ce qui est plutôt bien, parce que c'est quand même une espèce
Très
balèze.
intelligente,
Enfin,
ouais.
ils sont malins, ils s'adaptent à toutes les situations. Enfin, vraiment, respect à les rats. Et j'ai noté aussi la vache, parce que pourquoi pas, tu peux avoir une vache dans ton pré, qui symbolise l'abondance, l'endurance et la force. Mal. Moi, j'aime bien. Et du coup, en parlant d'Occident, vous avez certainement pensé, du coup, quand j'ai dit familier, à plein d'exemples de la pop culture. Évidemment, quand on pense familier, on pense.
Salem.
Oui, les chats noirs, dont le chat noir de Sabrina, qui était joué par un atroce animatronique dans la série, sauf de temps en temps où il y avait un vrai chat.
Non, pas trop génial.
Il était horrible, moche, mais il était très drôle. Et démoniaque.
Je te laisse pas insulter mon personnage préféré.
T'as aussi les corbeaux. On en trouve beaucoup dans les films d'animation de Disney. T'as le corbeau de la
Ah, de
sorcière
la
dans
sorcière,
Blanche-Neige et
ouais.
les Sept Nains. Même si c'est pas vraiment son familier, c'est plutôt un corbeau qui vit avec elle. Enfin, il a pas d'usage, tu le vois pas l'aider et tout. Mais par contre, celui de Maléfique, la Belle au Bois Dormant, lui,
Ouais.
il lui obéit, et il fait des trucs, enfin, il la comprend et tout. Tu me diras, les corbeaux seraient
Et est-ce que
intelligents,
le
mais.
perroquet Jafar, ça compte comme un familier?
J'y ai pensé, mais Jafar, ouais, c'est un peu un.
Bah, c'est
C'est un
un
magicien.
magicien, c'est un sorcier.
Ouais, ça compte. Et puis il y a aussi un peu le côté, je trouve, l'oiseau, ça fait un peu le côté, tu sais, méchant, parce qu'on représente souvent des pirates avec des oiseaux.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, il y a un peu ce côté, de pas partie de la team des gentils, quoi.
Iago.
Bien sûr, dans Harry Potter, tu as toutes sortes d'animaux. Tu as Edwige, la chouette, Trevor, le crapaud. Trevor, qu'est-ce que je l'aime. Trevor!
Savais pas
Tu as
tout mon
Croutard, le rat
crapaud.
de Ron. On spoilera rien pour les gens qui ont l'intention de voir Harry Potter un jour. Et exemple plus atypique que j'ai noté,
Attends, vous.
dans La Petite Sirène. Tu vois ou pas?
Ouais.
Pour celui-là, c'est la sorcière pieuvre là.
Ouais, la
Elle,
deux
c'est
anguilles.
familier, c'est des murènes.
Ah, c'est des
Des
murènes,
anguilles.
ouais.
Oh là là, l'insulte!
Bah quoi, comment
Des
ça l'insulte?
anguilles!
C'est bien les anguilles.
Bon, c'est quand même, c'est bien des anguilles, mais c'est des murènes, wesh. C'est comme si tu voyais un dauphin et tu disais oh, la sardine.
Eh ben, c'est quoi ce jugement-là? C'est pas la taille qui compte.
Non, mais moi, si j'étais un dauphin, je voudrais pas qu'on me compare à une sardine.
Tous les animaux de la
Parce que
création sont égaux.
Ouais. Soirée. Et du coup, figure-toi que j'ai trouvé une information, voilà, que je vais vous balancer comme ça parce que je n'en sais pas plus. Il existe des familiers connus. J'ai pas trouvé de qui c'étaient les familiers, mais j'ai trouvé le nom de deux crapauds britanniques qui s'appelaient Great Tom Tweet et Little Tom Tweet. Je trouve ça beaucoup trop drôle. J'ai pas réussi à trouver. Enfin, j'espère qu'ils se sont pas fait cramer, mais voilà.
Ça a juste trouvé leur
J'aimerais que vous
nom, en fait.
sachiez qu'il existait ces deux crapauds. Great Tom Tweet, Little Tom Tweet.
C'est un bon nom de crapaud.
Pas mal, hein? Bon, en pratique, les familiers, ça donne quoi? En gros, sur Internet, ça fourmille de trucs sur les familiers, en fait. Je pensais pas, mais t'as plein d'informations là-dessus. Je pense que c'est parce que notre génération, en même temps, elle est un peu fan de sorcellerie, ésotérisme, tout ça. En même temps, on est à fond dans la sorcellerie, la pop culture. Et on aime bien les animaux de compagnie. Je pense qu'il y a un. Ça s'est
Bingo.
regroupé à ce niveau-là. Et les gens adorent avoir des familiers et ils sont là en mode ceci, mon familier, je vous le présente, il s'appelle machin. Mais son nom de familier, c'est truc, parce qu'apparemment, tu peux avoir un deuxième nom, un nom de. Comme un nom de sorcier ou de stripteaseuse, tu vois, ou un nom de sirène, on se sait, Louise. Du coup, sur YouTube, j'ai trouvé un sort. Et là, j'ai pensé à toi, Louise, c'est un sort d'appel de familier. Parce que. Louise, si vous ne le saviez pas, va sans doute incessamment sous peu adopter un chat. Elle a d'ailleurs le lit
Spoiler.
du chat. Spoiler! Du coup, c'est un sort pour faire venir. Enfin, en gros, tu fais le sort et l'idée, c'est que bah, le familier, il arrive. Pas tout de suite, on sait pas quand, mais il arrive et c'est ton familier parce que tu l'as appelé.
J'adore le pas tout de suite, on sait pas quand. Ouais.
Mais en tout cas, tu sais que quand il arrive, peut-être c'est parce que tu l'as appelé, on ne sait pas. Il faut y croire un peu aussi, attention, hein. Et donc, je vais le simplifier ici, le sort. J'ai trouvé ça sur une chaîne YouTube qui s'appelle Le Sorcier de la Pluie. D'après ce que j'ai compris pour le contexte, ça a l'air d'être un Wiccan. Ne me tapez pas sur les doigts si c'est pas ça. En gros, c'est pour faire venir ton familier du coup dans ta vie. Donc, étape numéro 1, il faut créer un cercle autour de toi. Alors, soit tu le fais avec des objets, soit tu le fais un peu avec tes mains en y mettant genre toute ta concentration. Et ton intention. Ensuite, tu te mets dans le cercle que tu as fait. Tu fais un sigil. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un dessin qui est composé. En fait, tu le composes comme tu veux, mais en rapport avec un thème. Genre, là, si c'est un sigil pour faire venir ton animal, bah, je sais pas si par exemple il y a un chiffre, un symbole, des lettres qui te font penser à un animal, bah, tu peux les entremêler, créer un truc. Tu fais ta petite tambouille, ce que toi t'aimes bien, ce qui te va. Et une fois que tu as fait ça, tu allumes des bougies, tu dis en cette nuit, en ce temps, que la nature et l'univers entendent mon appel. Ensuite, c'est la partie que j'aime pas parce que tu dois méditer. Tu t'assois, tu médites en pensant à ton familier. Voilà, puis une fois que tu t'es bien concentré, non mais moi je m'en fous, j'en ai déjà un de familier. Tu dis qu'il en soit ainsi. Ensuite, tu refermes le cercle de la même manière que
Amen.
tu l'as ouverte. Et c'est censé voilà, attirer la bête. Voilà. Et oui, et j'ai essayé de trouver un sort. Parce qu'il y en avait qui parlaient de ça pour officialiser un peu ta relation avec le familier, mais j'en ai pas trouvé. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plutôt compilé des conseils pour se rapprocher ou se connecter un peu plus magiquement à ton familier, si tu penses que t'en as déjà un. Voilà. Si vous êtes moins sort et plus petit geste, c'est plus pour vous alors. Tu peux parler au quotidien à ton familier. Check,
Ouais,
j'ai envie de dire.
tout le monde fait ça.
Être attentif à lui, étudier son comportement. Oui, de toute façon, c'est que des trucs que tu fais quand t'as un animal de compagnie, concrètement. Mais apparemment, genre, ton animal de compagnie, c'est pas non plus forcément ton familier. Si tu fais des trucs de magie, si ton animal de compagnie ne témoigne aucun intérêt pendant que tu fais ta petite tambouille de chaudron, c'est pas ton familier. Par contre, si le chat du voisin est bien tout le temps quand tu fais de la cartomancie, ah, peut-être
Là.
que. On sait pas. Voilà. Ensuite, l'autre conseil que j'ai lu, c'est les inclure dans les préparatifs. Genre, si tu prépares un truc, tu lui fais sentir les objets, les ingrédients. Enfin, moi, check aussi. Hein, quand je
Ouais, pas
reviens des
mal.
courses, quand je fais n'importe quoi, il veut voir ce que je fais de toute façon.
Oui, bah c'est
Donc,
normal.
ben oui. Ah, t'es curieux, mon petit père. Il aime particulièrement les fruits. Voilà.
Est-ce qu'il y a
Ensuite, t'as les inclure.
lui chanter des petites chansons très faux et avec beaucoup de fois son prénom dedans?
Je pense. Oui. Ça doit compter dans leur parler.
C'est vrai.
Mon avis, ça devrait être obligatoire en fait. Du coup, tu peux les inclure dans ta pratique. Par exemple, si tu fais de la divination, genre avec je sais pas, des dés ou des objets, tu sais, des osselets, bah, genre, je sais pas, tu peux attendre que
T'envoies
ton
les
chat
osselets au
marche
chat
sur
et
un
puis il joue
truc.
avec.
Et puis tu regardes un peu ce qu'il fait, voilà, tu te dis peut-être que. Et c'est ce qu'il fait. Moi, par exemple, ce qui est drôle, c'est que des fois, le chat fait tomber mes cartes de tarot ou mes cartes d'oracle. Et du coup, j'aime bien regarder ce qu'il a fait tomber, les interpréter. Ça me fait rire. Bon, il est clairement pas. Il n'a pas de prédisposition. Voilà.
Il fait de son mieux.
On va dire ça comme ça. Il fait de son mieux. C'est un moldu. C'est un crac-molle. Mon fils est un crac-molle. À Skip, tu peux aussi méditer avec ton animal pour te rapprocher magiquement de lui en calant ta respiration sur la sienne. Alors, c'est stupide pour deux raisons. La première raison est que déjà faire du yoga avec un chat, c'est un challenge. Alors, méditer.
Ouais.
C'était quand? La semaine dernière, je me suis auto-hypnotisée. Franchement, ça a marché jusqu'à ce que le chat me pousse avec ses pattes pour que je lui fasse plus de place dans le lit. Donc, c'est un échec. Et deuxièmement, un chat, ça respire beaucoup trop vite pour un humain. Possible de calquer ta respiration sur lui.
Ouais.
Essayez. Ça marche pas. Moi, je veux bien faire ce qu'on me dit, mais bon. Voilà, je crois qu'on en est. On a fait tout le tour.
Le tour des animaux.
Le tour des animaux.
Ça m'a fait penser
Conclusion, mon chat n'est pas mon familier, mais en même temps, je ne pense pas être une sorcière.
Mais si.
Mais si,
Tout
tu
le
fais des soupes des fois.
Voilà. Tu es ce que tu as envie d'être, Marion.
Mais oui.
Si tu y crois assez fort, tu le seras.
Je suis la sorcière de la salle de bain.
Est-ce que tu passes beaucoup de temps dans ta salle de bain?
Ouais. C'est une pièce très
J'étais en
importante.
train de penser que ça me fait penser que moi j'aime beaucoup le familier Gigi dans Kiki la petite sorcière.
Ah oui, Kiki! Tu vas parler d'elle.
Parce que c'est hyper intéressant aussi de... spoiler alerte, dans Kiki la petite sorcière, Kiki a un lien spécial avec son chat où elle arrive à lui parler. Et à un moment dans l'histoire, elle perd ses pouvoirs et elle n'arrive plus à parler à son chat. Et elle perd du coup la connexion qu'elle a avec son chat et son chat s'éloigne.
Ah oui, putain, c'était horrible cette scène.
C'est très triste. C'est trop triste. Mais c'est très beau. J'adore ce film. Et du coup, c'est aussi intéressant de cette manière dont ils ont représenté le lien avec le familier qui est du coup plus fort quand c'est ton familier que simplement si c'est un chat. Mm-hmm. Un chat lambda qui va passer sa journée.
C'est vraiment une métaphore de l'âge adulte en plus. Elle a 13 ans, elle part de chez elle, puis ensuite elle commence à...
Il y a plein de métaphores. Il y a une super vidéo...
Moins sensible à des choses un peu magiques.
Il y a une super vidéo d'analyse de Kiki la petite sorcière qui met en parallèle avec la peur de la page blanche et de la perte de la créativité de l'artiste. C'est hyper intéressant. Je te l'enverrai.
Et du coup, je veux bien commencer les anecdotes si tu veux.
Vas-y.
Parce que j'ai une anecdote et une reco, et mon anecdote, elle a un lien avec les familiers.
Vas-y, ça fait une belle transition. Attends, on n'a pas fait le petit jingle. C'est la partie anecdote. C'est les anecdotes. Vas-y.
Anecdote. C'est une anecdote historique. Il y a fort longtemps, à la fin du XVIe siècle, en Écosse, donc voilà, imaginez.
On y retourne.
Il y a du vent. Voilà, on y retourne. Vivait un dresseur de chevaux appelé Banks.
Comment ?
Comme une banque, finalement.
Banks.
Et Banks.
Comme dans Mary
et
Poppins.
Et il entraînait ses chevaux. Il y a quelqu'un qui s'appelle Banks dans Mary Poppins ?
Bah, la famille Banks.
Ah, sûrement. Je n'ai pas assez de connaissances sur Mary Poppins pour me souvenir des noms des.
Ok, je te juge. Famille. Bon, vas-y, continue.
Je le sens, je le sens. Et donc, Banks entraînait pour des tours un cheval qui s'appelait Morocco, donc Maroc pour les non-anglophones.
Je n'aurais pas pu deviner tout ça.
Morocco. Bah non. Et donc, le cheval, on l'appelle aussi Morocco, le cheval dansant. J'adore. Non seulement il était entraîné pour danser sur ses jambes arrière, oui, parce qu'on dit jambes pour un cheval et non pattes. J'ai fait de l'équitation. Et en plus, il assistait son maître en fait dans des tours de passe-passe un peu. Et il semblait très très intelligent. Et du coup, évidemment, la rumeur a commencé à dire que ce cheval, dis donc, ce serait
plus
pas
qu'un
un
cheval,
sorcier. Et en plus, j'ai lu que Banks aurait dit une fois qu'il avait appelé son cheval un spirit, donc un esprit. Ça se trouve, le gars avait juste dit ce cheval a tellement un esprit libre, c'est fou.
Ou il ressemble à Spirit, les talons des plaines.
Ah, trop bien ce film ! Pardon, mais je vous en conjure, si vous n'avez pas vu ce film, regardez-le.
Je ne l'ai pas vu.
Regardez.
À toi de me juger.
Prends des mouchoirs, regarde-le.
Non, j'ai vu la bande-annonce, j'ai vu un cheval fouille. Avec des sourcils, et j'ai dit, nah.
C'est vrai qu'il a des sourcils. Non mais... Franchement, ce film est incroyable, il faut le regarder. Mais en plus, la musique est super, c'est Bryan Adams, et en plus, Bryan Adams, il a fait les chansons aussi en français, avec un petit accent et tout. Bref, ça fait un peu Eros Ramazzotti, on adore. Bon, et du coup,
Banks.
C'est là qu'on arrive à la partie pas marrante, c'est que la rumeur, c'est pas confirmé, dit que le pape aurait donc fait brûler ce cheval. Enfin, il aurait dit, ça serait, parce que c'était quand même un cheval assez connu, voilà, il faisait des tournées. Et à skip. Mais j'espère que c'est faux, même
pas
si
sympa,
de toute
pape.
Façon on sait qu'il y a plein d'animaux qui ont été exécutés
ouais.
Pour sorcellerie. Il y a eu des bûchers entiers de chats. Donc,
juste pour être mangé.
De toute façon, l'histoire est crasse. Même pas en plus, juste pour être cramé. Bref. Et donc, petite reco plus joyeuse.
Ouais.
Si vous jouez aux Sims, et si vous jouez aux Sims,
oui,
vous
ça change
raison.
Complètement.
Sachez. Oui. Sachez que dans l'extension Monde Magique, où on peut jouer avec des Sims sorciers, Lorsque tu vas dans le monde de la magie, tu as une école de magie où tu fais des sorts, tout, des potions, des combats de mages. Mais tu peux aussi aller sur une espèce de marché de sorciers. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais dans ma tête, c'est l'allée des embrumes, tu vois. Et en fait, tu peux acheter plein de trucs. Tu peux acheter des baguettes, tu peux acheter des potions, des sorts, etc. Et tu peux acheter des espèces de boules de cristal de couleur. Qui en fait contiennent des familiers. Et donc en fait, selon la couleur que tu choisis, tu as, je sais pas, un petit dragon volant, une petite chouette et tout. Et tu peux les collectionner, enfin, tu peux en avoir plusieurs. Et quand tu l'actives, ton personnage, il a un petit familier qui lui vole à côté. Et donc, dans ces petites boules de cristal sont censés être contenus les familiers. Par contre, ils n'ont pas de jouabilité. Genre, ils font. Enfin, ça fait un moment que j'ai pas joué aux Sims, mais il me semble que tu peux rien en faire. Enfin, c'est juste qu'ils sont jolis, ils volent à côté de toi.
Ah.
Mais voilà. Et pour en faire des captures d'écran pour les réseaux sociaux, je vais devoir replonger dans cette
Oh
drogue dure
non.
qu'est les Sims.
Bon bah dans 3 mois, salut.
Non! Bon, bah si vous n'avez pas de nouvelles de moi pour les prochains épisodes.
On s'est outé.
Non, mais c'est, enfin, moi, j'ai pas trop d'extension des Sims. Je crois que j'ai que celle-ci. Et bah moi je la trouve bien. J'ai même pas encore fait le tour et pourtant j'y jouais pas mal à une époque. Et en plus ce qui est cool avec cette extension, c'est qu'il y a une potion qui rend immortel le sorcier ou la sorcière qui la boit. Donc tu peux avoir un sim qui vit éternellement.
Qui est toujours.
Et ça c'est plutôt
Et du coup, il
chouette.
peut pas
Ouais, en
mourir
plus du
genre
coup.
de cause naturelle, genre t'as plus besoin de le
Non.
nourrir et tout.
Non, il se démerde. Et en plus, c'est cool du coup parce que ça veut dire que s'il peut jamais mourir, il peut tout le temps s'améliorer au truc qu'il fait. Donc, il peut devenir une sorcière super puissante ou, je sais pas, être pro de jardinage.
Bon, de toute manière, moi, quand je joue aux Sims, je ne fais que construire des trucs et je ne joue jamais vraiment aux Sims.
Tu as bien tort parce que dans les Sims, tu peux parler avec la faucheuse et un de mes personnages est devenu meilleur ami avec la faucheuse. Ils ont des conversations deep et tout. Et à un moment donné, le fils du personnage pleurait dans son berceau. Et qui a été le réconforter et le bercer pour le remettre au lit? La faucheuse.
Ah,
Et ça fait des
brave,
super captures d'écran.
brave faucheuse.
C'est mignon. C'est cute.
Bon, j'enchaîne par un truc déprimant.
C'est parti.
Alors, c'est un article que tu m'as envoyé et que du coup, j'ai pas eu besoin de préparer mon anecdote parce que tu m'as fourni le truc. Et c'est un article que vous pouvez retrouver sur le site de BBC News, mais qui est en français, et qui s'appelle La femme qui vole au secours des personnes accusées de sorcellerie et d'envoûtement. Et c'est un article qui date de décembre 2021, donc c'est pas si vieux que ça, et qui est dédié du coup à raconter l'histoire de Monica Paulus, qui est une habitante de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je ne sais pas comment on appelle les habitants, une papouasienne.
Ouais, je crois qu'on dit papouasien. Ou c'est juste moi qui dis ça.
En tout cas,
En tout cas, elle y
cette
habite.
dame qui habite là-haut, elle a été accusée par son frère d'avoir tué son père et a été menacée de mort et de torture parce qu'elle a été accusée de sorcellerie. Elle a eu la chance de réussir à fuir et depuis, elle lutte contre les accusations de sorcellerie qui accablent les femmes en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et qui ont souvent des issues très violentes, très sanglantes et assez horribles. Donc du coup, ils ont écrit un petit article qui est très déprimant, mais très intéressant pour voir un peu la perception des sorcières dans ce pays. C'est assez similaire au traitement des sorcières dont je vous avais parlé quand je vous avais parlé des camps de sorcières en Afrique. Sauf que là, du coup, d'ailleurs, bizarrement, leur article est rangé dans la catégorie Afrique, alors que la
Oui.
Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est en Océanie, c'est au-dessus de l'Australie. Donc je pense
Peut-être que c'est une colonie d'un pays d'Afrique.
ouais, c'est pas, c'est,
Je suis nulle en
ouais, moi
géographie.
aussi, c'est que. J'ai plus confiance en BBC qu'en moi-même, donc on va dire qu'ils ont peut-être raison.
On espère.
Et donc voilà, cet article que je recommande et dont on mettra le lien. Et au pire, je redonne le titre. La femme qui vole au secours des personnes accusées de sorcellerie et d'envoûtement. C'est un article de Harriet Orwell sur le site de bbc.com. C-O-M.
Tu viens vraiment déplaire comme...
On ne sait jamais, il y a peut-être des gens qui ont du mal avec les adresses internet.
C'est nous qui avons du mal, là. Personne n'a du mal ici.
Et BBC, ça s'écrit BBC.
Comme Bart, Belzébuth et Chaudron.
Voilà. Et donc, une fois que vous aurez lu cet article un peu déprimant, mais très intéressant, vous pourrez aller regarder une vidéo de la youtubeuse Manon Bril, qui a la chaîne YouTube C'est une autre histoire. C'est une vidéo qui date du 5 janvier 2022 et qui s'appelle « La sorcière tueuse de Bretagne, 2 points, mythe-réalité, fit Thomas Hercouet ». Et ça dure...
Oh, j'arrive pas à croire que je l'ai raté.
4 minutes. Je ne vous raconte absolument pas ce qui se passe dedans parce que... 4 minutes de vidéo, si je vous raconte ce qui se passe dedans, je vous raconte toute la vidéo. Et oui, c'est génial et très drôle. Et en plus, la sorcière tueuse de Bretagne, elle s'appelle Marion.
Ah, je suis trop contente. Pardon. C'est que personne ne s'appelle jamais Marion. Dans les chansons, dans les histoires, personne ne s'appelle Marion. Marion, c'est juste le nom de la ville d'Indiana où est né James Dean. Mais sinon, rien.
Et ben
je suis
voilà.
Trop contente. Voilà.
Et ben, tu iras voir tout
ravie.
De suite après. Cette petite vidéo qui m'a bien fait rire.
Bah, je suis dessus, là.
Juste non, j'ai dit juste après, pas pendant. Et voilà. Et du coup, je me sens très importante avec notre petite audience de recommander des vidéos de Manon Bril.
Oui. En plus, chaque
ce petit
chaque
truc
mois,
pas
coup,
très connu que vous devriez aller jeter un coup d'œil.
Elle sort ses vidéos animées le premier mercredi du mois. Et c'est quand la sirène sonne, sauf qu'une fois, chez moi, dans ma ville, elle n'a pas sonné.
Ils le font plus
du coup, j'étais
maintenant.
Vachement perturbée. Bon ?
Oui.
Moi, je m'étais habituée à ce traumatisme. Les personnes qui ont vu Silent Hill savent de quoi je parle.
Bon, sur ces anecdotes.
Sur ces entrefaits.
On va en finir ici.
Franchement, pour deux meufs fatiguées un lundi soir de février, je trouve qu'on s'en sort vraiment pas mal.
Ouais, on a bien joué.
Ouais, on espère pour vous que c'est pas lundi soir. On espère pour vous que vous êtes vendredi soir et que vous avez un week-end devant vous.
Bah, nos épisodes sortent les dimanches, Marion.
Ah merde, je suis con. Bah, oui, mais peut-être que les gens ils vont pas l'écouter le dimanche. Moi, j'écoute jamais les épisodes quand ils sortent.
Ah, moi je suis trop accro.
Followers.
Moi, j'ai mon petit planning de « Alors, le jeudi, c'est ça, le lundi, c'est ça.
» J'ai un planning que je ne suis pas.
Et du coup, si vous n'avez pas de planning et que vous ne savez pas quand est-ce que vont tomber les épisodes, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux pour suivre toutes les actualités. On est sur Twitter, sur Facebook, même si on a du mal à le tenir, et sur Instagram.
Oui.
Et évidemment.
Et franchement, dites-nous si vous êtes sur Facebook, parce que ça m'intéresse de savoir.
Oui, il y a 2-3 personnes qui aiment nos posts, donc c'est qu'il y a 2-3 personnes qui.
C'est fou. Et bah, franchement, félicitations.
C'est pour eux qu'on le fait.
Vous êtes là.
Ouais, il y a ma meilleure amie qui aime les posts. Ma meilleure amie et sa sœur qui aiment les posts qu'on fait, et alors du coup, pour elle, on restera.
Just for you.
Et sinon, vous pouvez aussi nous retrouver sur, évidemment, vos plateformes de podcast favorites pour avoir des notifications si vous activez les notifications.
Ah oui. Enfin, je dis, oh oui, vous faites ce que vous voulez avec vos notifications.
Ouais, moi, je suis ce genre de personne qui déteste les notifications. J'ai que les SMS et les appels.
Ouais, moi aussi. Au point qu'à un moment donné, je crois que j'avais enlevé les notifications des SMS et de WhatsApp, mais c'était chiant.
Oui, là, tu sais plus. À WhatsApp, j'ai pas. WhatsApp, il faut que j'ouvre pratique. L'appli et je vois qu'il y a 40 milliards de messages de ma famille et du coup, je referme l'appli.
Il y a eu un temps où j'ai plus de notifications WhatsApp. Je les ai remis et je regrette.
Ouais, oh non.
Bref, tout ça pour dire peut-être si vous avez toujours mis les notifications, essayez sans pour voir.
Ouais, ça fait du bien.
Ouais. Mais ne nous oubliez pas. Ouais. En tout cas, on vous remercie d'être toujours, toujours là. Pour nous. Déjà, on vous remercie d'avoir écouté cet épisode.
Ouais.
On vous remercie de nous écouter, de nous envoyer des petits messages. Des fois, même, vous mettez des petits commentaires et tout. Mm. C'est mignon.
Vous êtes mignon.
Ça fait plaisir.
Vous faites plaisir.
Ouais.
On remercie aussi Moon and Sun pour la musique.
Et Craig, notre ingé son. N'oubliez pas de rester magique.